Radio Okapi. Okapi. Okapi Service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Pour vous qui venez de nous rejoindre, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission de la vie au quotidien. Eh bien, de quoi allons-nous parler à présent ? Nous allons parler du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Comment lutter contre ce fléau ? Nous avons dans ce studio Madame Charlie Lumandé, journaliste à la RTNC 3. Bonjour Madame Charlie.
Bonjour Monsieur.
Bienvenue dans cette émission. On aura également tout à l'heure en ligne Madame Grace Ngike, présidente de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite. Ensemble, nous allons échanger autour de cette question, le harcèlement sexuel. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique ? Le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net pour participer. Pierre Diassino à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel à la coordination au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Service, à votre service.
Bien, le harcèlement sexuel est une réalité en milieu professionnel, particulièrement dans la sphère médiatique en République démocratique du Congo. Ce fléau a fait l'objet d'une rencontre la semaine dernière à Kinshasa des femmes des médias afin de partager sans tabou les expériences vécues et proposer des pistes, des solutions pour bannir ce mal qui prend de l'ampleur et freine l'épanouissement de la femme dans la profession. Alors comment lutter efficacement contre les harcèlements sexuels dans la sphère médiatique ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous recevons d'abord Madame Charlie Lumandé, elle est journaliste à la RTNC 3. Madame Charlie, encore une fois, bonjour et ravie de vous retrouver, de vous accueillir dans cette émission Okapi Service. Vous avez participé à cette conférence autour du harcèlement sexuel en milieu dans la sphère médiatique. D'abord, c'est comment vous entendez par ce concept harcèlement sexuel ?
Bien, quand on parle du harcèlement sexuel, en quelque sorte, c'est peut-être un homme qui force un peu envers une femme, qui l'approche, mais d'une manière tout à fait désagréable. Et je crois que dans notre milieu, c'est des choses très fréquentes. Vous voyez, souvent, les femmes sont minoritaires dans le milieu journalistique. Et je crois que c'est pour cette raison-là qu'elles sont peut-être faibles face aux hommes. Et là, le harcèlement est vu au quotidien. Donc, les hommes nous approchent. Pourtant, nous sommes de confrères, des collègues. Ils nous approchent, mais ils ont toujours des écarts dans leur comportement envers les femmes. Alors, nous, on sous-entend que c'est
parfois un dans leur langage aussi.
Leur langage, ça, c'est à chaque instant, en fait. Il faut que je reconnaisse une chose. Souvent, les hommes ne nous respectent pas. Ils s'imaginent que quand nous allons travailler dans ce milieu-là, c'est peut-être pour nous donner à eux. Et ils ne tiennent même pas compte des cas où vous trouvez des femmes mariées, parce qu'il en existe, des femmes fiancées, mais pour eux, ce sont des femmes. Donc, c'est une femme devant lui, eh ben, il lui parle de n'importe quelle manière, de la manière qui lui convient. Et nous, on suppose que c'est une sorte de harcèlement, en fait. Donc, voilà.
Et tous les jours, ils veulent tous. Leur objectif, c'est quoi ? C'est de coucher avec elle.
Bon, ça dépend. Quand on est des petits débutants, nous tous, on a commencé par là. Quand vous êtes débutant, vous êtes craintif. Vous avez un chef qui est devant vous. Vous imaginez que si vous dites non, par exemple, il va peut-être vous mettre de côté. Là, c'est dans la tête de petites débutantes. Mmh. Mais quand on, comment je peux dire, on fait beaucoup d'années dedans, hein, comme nous, par exemple, sommes devenus hein, des personnes aguerries, mmh. Eh ben, on n'en tient même pas compte. Et puis, bon, c'est ne plus le cas. Mais la majorité de temps, pour un grade, pour hein, une promotion, ou alors
une mission de service,
ben, il faut passer à la casserole, souvent. Hmm. Pas toujours, c'est pas tout le monde qui le fait, hein. Faut pas généraliser non plus. Mais souvent c'est ça, malheureusement. C'est des choses que nous vivons, surtout au quotidien.
Et vous avez été victime du harcèlement sexuel dans votre carrière.
Tout à fait.
Racontez-nous votre histoire.
Bon, moi quand j'avais commencé, j'étais quelque peu timide. Bon, alors, je voyais des grandes personnalités là, à la télé, je les craignais, j'étais tout à fait waouh, donc. J'étais très heureuse d'être dans ce milieu-là. Mmh. Il y avait des grandes sœurs, comme on disait à l'époque, hein, des aînés qui étaient là, qui nous encadraient. Et souvent, les chefs, c'était, on vous invite. Hein, moi, ça m'était arrivé une ou deux fois.
Allons partager un verre.
Oui, on partage un verre ce soir. Ben, moi, je dis non, là, moi, je pourrais pas. Et puis, le monsieur, là, c'est pas dit que comme c'est mon chef, il me convient pas du tout. J'ai dit oui, mais je n'y vais pas. Et après plusieurs années, toujours la même chose, on vous dit, voilà, on vous tend un papier, vous voyez ici, c'est une mise en place, il y a un vide là. Si vous dites oui, eh ben je mettrai votre nom dessus. Bon, je dis, ah, donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai dit non et je rate le poste. Mmh. Et ça a traîné comme ça. Dans mon cas, c'est ce qui m'avait même amené à adhérer au syndicat. Je fus même président du syndicat par vengeance, parce que je me disais que bon, les grades, moi, je les ai pas. Alors autant.
Donc vous avez raté ce poste-là.
Moi j'avais raté et je m'étais dit bon, je me mets au même pied d'égalité que je vais dans le syndicat. Et à mon époque, on était à 20, il y avait 19 messieurs, j'étais la seule femme. Et par après, je m'étais même retrouvée de président du syndicat et on siégeait avec le PDG, le représentant des travailleurs et tous ces directeurs-là.
Et là, à l'époque, c'était où, hein? Vous travaillez où?
Toujours à la RTNC.
Ah, toujours à la RTNC.
J'avais commencé le 2 février 1982, voyez-vous. Donc, j'étais là. J'avais travaillé pendant très longtemps. Donc, c'était des choses...
Alors, vous avez commencé toute jeune, là?
Ben, bien sûr, tout pimpante.
Ouais, à quel âge, là? À l'époque, vous
à
aviez
à peine
quel âge?
La vingtaine.
La vingtaine.
On nous prenait très jeunes pour vieillir dans le métier. En tout cas, à l'époque, on nous prenait très, très jeunes. Vous avez peut-être... Pour faire carrière, un diplôme, vous allez aux études. Mmh. Et puis, au fil du temps, vous restez là, vous vieillissez dans le métier, vous apprenez correctement. C'était ça.
Donc, le harcèlement sexuel, ça n'a pas commencé aujourd'hui.
Non,
c'est depuis
pas
très
du
longtemps.
Tout. C'est depuis très, très, très longtemps. Parce que, à la conférence de monsieur Zakaï Babassoué, on était avec des aînés de la RTNC, qui avaient commencé leur carrière en 1965. Ils en parlaient aussi, mais seulement, les dames avaient dit que c'était pas, ça n'avait pas l'ampleur, ça, que ça.
C'est ça appelle. Aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment exagéré.
Et c'est dû à quoi? Quelles sont les causes? Est-ce que vous avez, lors de la conférence, vous avez fait un état des lieux de la situation?
On a fait, comment on a constaté qu'il y a aussi la part de femmes là-dedans. Vous voyez, la première des choses, c'est la manière de s'habiller. La femme, les femmes s'exposent trop. Alors, ça, vous voyez, ça fait en sorte que les hommes aussi s'intéressent à elles. Mmh. Peut-être d'une manière pas tout à fait correcte. Mais il y a aussi les réseaux sociaux qui, vous voyez, avec la culturation, confond les mœurs, tout ça. Nous avons nos traditions et tout. À l'époque, la femme était quelque peu réservée. Mais maintenant, ce sont des femmes huppées. Et comme ces femmes-là croient aussi, les jeunes filles, et croient qu'être à la page, c'est sortir avec telle, avoir autant d'argent. Alors, vous voyez, tout ça est mis en cause. Et c'était... des jeunes filles d'ailleurs hein, qui décriaient cela durant notre conférence, donc voilà.
Mm-hmm. Alors qui sont généralement les auteurs de ces harcèlements? Est-ce que c'est seulement à la rédaction les directeurs et les autres, ou c'est par exemple quand vous passez à la télé, bon, certains téléspectateurs qui tombent sous votre charme et qui commencent à vous harceler?
Oui, ça peut arriver aussi, et surtout que maintenant, quand nous passons, il y a toujours des numéros affichés. Eh ben, il y a des personnes qui se gênent pas, hein, qui vous font des messages, qui vous appellent même en direct. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. À la rédaction, c'est normal. Il n'est pas interdit de se marier entre collègues, quand même. Entre collègues, confrères, bon. Une de la RTNC peut vous épouser quelqu'un de Radio Okapi, c'est tout à fait normal. C'est toujours dans la même profession. Mais bon, il n'y a pas que les directeurs. Il y a aussi des jeunes qui osent. Hein. Et il faut dire aussi, il y a des femmes aussi qui harcèlent. Il y a une femme aussi qui va,
C'est pas seulement les hommes qui
harcèlent. Non, c'est vice-versa. On en connaît.
Les choses ont changé aujourd'hui.
Les choses ont changé. D'ailleurs, moi, je vais pas vous apprendre que, bon, il y a l'homosexualité aussi. Ah, il y a des femmes qui s'amoureusent des femmes, des hommes aussi, envers leurs semblables. Ça arrive partout. Donc, moi, j'ai quand même pu, si je peux dire entre parenthèses, pendant un temps, toujours à cause de mon syndicat, pendant 13 ans, j'avais été remerciée de la RTNC. J'avais travaillé simultanément dans deux entreprises, des médias, donc j'ai vu aussi des choses. Donc c'est pas seulement à la rédaction, non. Ça dépend de ce que l'homme ressent et la femme ressent dans son cœur et s'exprime, peut-être mal, mais s'exprime quand même.
Bien, on va accueillir Madame Grasingike Kangundu. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Vous êtes présidente de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite. Bien, nous parlons du harcèlement sexuel en milieu dans la sphère médiatique. Alors, d'après vous, quel état des lieux d'abord vous faites de la situation aujourd'hui?
Bon, l'état des lieux est qu'il n'y a pas assez d'avancement, rien n'avance vraiment dans ce domaine des harcèlements. Les milieux de la presse souffrent de ce problème, surtout du côté des femmes journalistes. Parce que moi, je m'occupe de cas des harcèlements de femmes journalistes qui sont dans la presse écrite. Avec GED, nous avons mené un monitoring. C'est un peu notre programme de la COFEM, un programme annuel. Chaque année, nous organisons de monitoring pour évaluer la représentation de la femme dans des postes de responsabilité au sein de rédaction. Nous avons constaté que à Kinshasa, vraiment, 70% des femmes n'ont pas accès dans des postes de responsabilité. Et lorsque vous allez au Kasaï central, c'est encore moins. Donc, nous pouvons estimer à 10 ou 15%, nous pouvons estimer, moins de femmes obtiennent facilement de postes de responsabilité. Alors, vous allez aussi en Mandaka, c'est 5%. Pas des femmes qui obtiennent des postes de responsabilité. Alors, nous avons cherché à savoir pourquoi ces femmes n'obtiennent pas de postes de responsabilité. Surtout à Kinshasa, vous avez des femmes qui sont compétentes, mais qui n'obtiennent pas. Est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes ou parce qu'elles subissent des contraintes, elles subissent des menaces, elles subissent des harcèlements? Alors, la première raison qui nous est parvenue, c'est parce qu'elles sont femmes. Donc, il y a un blocage parce qu'elles sont femmes, elles ne peuvent pas diriger. Alors, lorsqu'on les bloque de ne pas devenir responsable d'un desk, responsable de rédaction, il y a maintenant le mot harcèlement qui intervient. Il y a maintenant des harcèlements. Il y a des propositions. Si vous acceptez de devenir tel, on vous donnera tel poste. Donc, il y a certaines quand même qui cèdent avec la pression des autorités, de la hiérarchie de la rédaction, mais certaines gardent leur position. Donc, ils nous ont confié, d'autres ont abandonné, par conséquent, ils ont abandonné les métiers et d'autres ont quand même cédé pour garder le travail.
Voilà, donc, c'est ça la situation aujourd'hui. Alors, d'après vous, quelles sont les solutions à proposer pour lutter efficacement contre le harcèlement dans la sphère médiatique?
Les solutions, c'est sensibiliser les femmes. Sensibiliser les femmes d'abord, de connaître les instruments juridiques qui protègent la femme sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national. C'est très important que les femmes entrent en connaissance avec les instruments juridiques qui protègent leurs droits. Et deuxièmement, nous poussons à travers nos campagnes de sensibilisation, nous poussons les femmes, les médias à dénoncer les harcèlements sexuels qui proviennent de leur hiérarchie. Donc on doit pousser les femmes à dénoncer tout ce qu'elles subissent comme harcèlement sexuel au niveau du travail.
Bien, merci beaucoup. On va accueillir un auditeur, Charles de Lubumbashi. Bonjour. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi aux invités.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au harcèlement sexuel dans la sphère médiatique?
D'abord, nous regrettons, parce que nous avons même des cas, nous avons même des témoignages ici à Lubumbashi. l'affaire, ça se porte très bien. Et après mon analyse minutieuse, j'ai compris que la responsabilité, elle est partagée. Partagée comment? D'abord, c'est devenu une monnaie courante. Avec l'homme congolais, on ne sait pas dans lui qu'est-ce qui ne va pas vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, on se demande. Et côté femme, nous savons que si vous devenez journaliste, chère femme, directement, vous devenez une personne publique qui sera vue par le public. Mais l'accoutrement, en tout cas, trop c'est tôt. Même les journalistes arrivent à s'habiller d'une façon là insupportable. Et dans notre société, en tout cas, l'attentat à Pidère est souvent négligé, même par nos juges et par nos avocats. En tout cas, les femmes arrivent aussi à s'exposer aussi d'elles-mêmes. Voilà pourquoi nous demandons à ce que chaque parti puisse vraiment que chaque parti puisse quand même revenir au bon sens.
Bien, merci Charles. Merci Charles depuis.
Pour terminer, monsieur Jody, terminer.
Oui.
Est-ce que ne faudra-t-il pas songer à une élaboration d'une loi, pas seulement pour des femmes dans la sphère médiatique, mais pour toutes les femmes qui sont dans les marchés d'emploi, parce qu'elles sont exposées ça et là, et même les enseignantes, même les avocats, en tout cas, c'est la même chose.
Bien, merci Charles de Lubumbashi. Madame Charlie Lumander,
oui.
Votre
oui,
point de vue, le... réaction par rapport à ce que vient de nous dire Charles.
Monsieur Charles a tout à fait raison. Je crois qu'il a repris ce que je venais de dire tout à l'heure. La responsabilité est partagée. Évidemment, nous les femmes, nous disons toujours, nous décrions ce que font les hommes. Mais c'est à nous de voir aussi la manière dont nous nous présentons devant eux. C'est-à-dire l'accoutrement. Les filles s'habillent très mal. Ça, vraiment, je m'excuse, mais elles s'habillent horriblement mal. Voyez-vous, tout est à découvert. Je sais pas, c'est la mode, c'est autre temps, autre mœurs. Nous, quand on fut jeune fille, nos mamans, avant de sortir, nous surveiller. En voyant de quelle manière nous sortions, parce que c'était leur honneur à elles. Mais nous qui sommes mamans présentement, nous avons des grandes filles qui ont la vingtaine, la trentaine, c'est mon cas. Ben je crois que j'ai certaines de mes sœurs qui laissent faire leurs enfants. Donc selon la mode, quand Rihanna s'habille les jambes nues, nous devons faire comme Rihanna.
Avec des tenues moulantes.
Avec des tenues, voilà, les tenues hyper moulantes. Il y a des longs caleçons. Quand vous allez en Europe, ça s'appelle long caleçon. Ici, on appelle des collants. Ce sont pas des tenues que l'on doit porter le jour. Et puis, au vu aussi de tout le monde. Mais tout est dessiné avec des strings dedans. Et comment voulez-vous qu'un homme... La poitrine bien exposée, bien mise en valeur, les natsu, comme on dit. Alors, comment voulez-vous qu'un homme puisse résister? Et le pauvre, il est là. Eh ben, il n'a qu'à louer cela, il n'a qu'à à dire des choses tout à fait peut-être désagréables pour nous, mais peut-être agréables pour les oreilles des filles. Donc, le monsieur qui vient d'intervenir a raison. Il faut qu'il y ait des lois. Il faut, comme à l'époque du président Mobutu, nous qui travaillions à la RTNC, à l'OZERTE, on nous mettait en panne. On était des jeunes filles, des petites jeunes filles en panne. Pourquoi? Pour ne pas montrer le corps, pour être pudique. Voyez-vous donc, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait dans chaque entreprise hein, quand même que l'on puisse éduquer, que les ressources humaines mettent en garde les personnes et à l'entrée d'une entreprise qu'on voit comment vous êtes habillé.
Mais il y a aussi des femmes qui s'habillent très bien, et peut-être qu'elle est femme mariée aussi, mais il y a quelqu'un à la rédaction qui veut aller avec elle.
Non, moi je vous ai dit que c'est dans la tête que ça se passe. Il y a des vicieux, hein. Vous trouvez un monsieur pudique et tout, il est peut-être responsable à l'église, mais qui a des vices, voyez-vous, donc ça c'est personnel.
Il y a des faiblesses là.
Il y a des faiblesses envers la femme, non, il tient pas. Quand tu vois une femme peut-être noire à sa manière, il l'aime à fond, il est marié avec une alliance et tout, mais il veut seulement l'autre là qui est marié. Non, mais là, c'est individuel, c'est personnel, ça n'engage pas l'entreprise, ça engage la personne qui s'y adonne. Donc, je crois qu'il faut tout simplement qu'il y ait des règlements d'ordre intérieur. Voyez-vous, bien affiché, bien collé au mur pour que quand les gens viennent, ils lisent, ils disent, donc ici, si vous osez, vous êtes dehors. C'est tout.
Et il semble que le harcèlement, ça se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être par des compliments, parfois déplacés.
Ouais, ça, c'est tout le temps, là. Comme nous, qui avions l'habitude de porter des jupes, on dit, ah non, mais regardez ses jambes, tout ça. Moi, je trouve ça tout à fait désagréable. Mmh. Mais il y a des gens qui se gênent pas. Voyez-vous, surtout dans les médias, là, les gens croient surtout, hein, les journalistes, ils croient que comme eux, c'est la parole, hein, ils sont obligés de tout dire, tout haut, ce qu'ils pensent, tout bas. C'est pas bon, ça. Les compliments, ben, vous devez savoir à qui vous faites des compliments. Faites des compliments à votre épouse, mais pas aux épouses des autres, quand même. Ça, c'est pas bon.
Et surtout avec insistance.
Oui, avec insistance, et tous les jours. Ils répètent. Et il y en a même qui reçoivent des claques. Comme pendant la conférence, il y a une là, je sais pas si elle est du Ghana. Non, elle est du Bénin.
Oui.
Elle avait donné une claque à leur DG.
Oh, qu'est-ce qui s'était passé?
Ah ben, monsieur, le DG exagère et il aimait. Évidemment, on adore que Dieu, mais le monsieur l'a adoré, la petite. C'était une petite, une fille de 1m60, là, très mignonne. Mmh. Alors, il l'aimait et vraiment, il l'a harcelé. La petite s'était dit, bon, pour couper court, je vais le gifler. Si je le gifle maintenant, comment il va aller dire aux autres, aux directeurs et autres, pourquoi je l'ai giflé?
Je l'ai giflé.
Alors, taille, elle lui a donné une baffe. Le monsieur ne savait pas, quoi
comment
dire.
Réagir, oui.
Voilà. Alors, tout le monde le regardait, mais il n'avait même pas mis à la porte la petite parce qu'elle avait, elle avait raison. Et lui, il avait cessé son harcèlement.
Voilà. Ah, oui. Voilà. Au moins, ça a marché, quoi.
Ça a marché. Mais c'est pas tout. Ici, si vous osez, vous êtes à ma cas, là.
Oui. Bien, Madame Grasse nous a dit tout à l'heure, comme solution, qu'est-ce qu'il faut faire, sensibiliser la femme, et puis il faut dénoncer. Voilà. Et la première dame l'a dit aussi dans son
mot. Voilà, ça, c'est, j'allais y arriver. Il faut dénoncer. Je vais vous dire une chose, hein. Nous les Bantous, moi je parle de Kinshasa, de la RDC. C'est-à-dire que nous, les Congolaises, nous tenons à notre dignité en nous taisant. Voyez-vous, si moi je dois dire par exemple Monsieur Charles m'a harcelé, je suis sortie avec Monsieur Charles, je me sentirais diminuée. Parce que les autres, quand ils vont entendre ça, ça sera une sorte de moquerie. Alors quoi faire, se taire. Nous devons apprendre à dénoncer. Mais maintenant, pour pouvoir dénoncer, il faut quand même qu'il y ait une sécurité pour la personne, hein, dénonciatrice. Parce que
voilà.
Vous pouvez dénoncer et puis vous vous retrouvez au chômage.
C'est ça.
Et quoi faire? Vous vous taisez. Vous voyez, donc, nous, pour dénoncer, il faut aussi couvrir la femme, il faut la sécuriser. Et c'est pour ça que j'ai suivi, elle a dit qu'il faut des formations, il faut des prises de conscience, et il faut qu'il y ait de lois. Hein, vous allez vous appesantir sur quelle loi pour une personne qui dénonce? Et si on la mettait dehors?
C'est ça, elle risque de perdre son travail.
Elle va perdre son travail, alors quoi faire d'autre, se taire? C'est ça qui tue. C'est pour ça que vous voyez, on parle pas tellement du harcèlement. C'est pas seulement dans le milieu médiatique. Non, c'est partout dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises.
Bien, on va accueillir Justin Debounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aux invités.
On vous écoute, Justin.
Merci, monsieur Jody, en tout cas, de m'avoir associé dans cette émission qui est très importante d'harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, particulièrement, monsieur Jody, dans le secteur médiatique. Oui, en voyant en tout cas les comportements de certaines femmes ou certaines filles, cher Jody, c'est déplorable. Moi, je connais, j'ai une expérience, je connais d'une fille, je ne peux pas citer les noms, je connais d'une fille qui travaille dans une radio locale ici à... Le même cas.
Oui.
Monsieur Jody et la fille, et donc, elle était mariée. Et en tout cas, elle a fait le mariage légal chez Jody. Mais, elle sortait avec des courtes jupes. Elle sortait donc elle-même. Vous voyez, je manque même le terme employé, monsieur Jody. Et donc, moi, je pense que les dames qui sont invités à la radio Capi, ils doivent, en tout cas, ces femmes-là, doivent sensibiliser les filles et femmes qui travaillent dans des radios. Pas seulement dans des radios, dans tous les secteurs de la vie, dans tous les secteurs professionnels, monsieur Jody. Parce que la façon dont les femmes s'exposent devant les hommes, ça montre qu'elles-mêmes s'exposent Et puis, lorsqu'ils sont harcelés, ils ont commencé aussi à... Ils ne veulent même pas...
Oui, Justin, merci. Alors, quelle est la question que vous adressez aux invités?
La question est celle de savoir, monsieur, aujourd'hui. Pourquoi les femmes journalistes, ils veulent s'exposer aux gens? Donc, ils aiment porter des pantalons et des courtes jupes. Pour quelle raison?
Merci, Madame Grasinguike. Est-ce que vous pouvez répondre à monsieur Justin?
Si je peux répondre à notre frère qui vient d'intervenir. D'abord, monsieur, il faut savoir que c'est un problème d'éducation. Nous sommes toutes journalistes, moi j'ai ma façon de m'habiller, mais le début c'est l'éducation, je sors de quelle famille? Si vous sortez d'une famille où vous n'avez pas reçu une grande rigueur de parents par rapport à votre accoutrement, par rapport à votre église, c'est-à-dire vous allez amener ces comportements même dans votre milieu professionnel. Alors, deuxièmement, je peux parler aussi de la tradition. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, surtout la tradition congolaise, où on est plus conservatrice de nos valeurs, c'est-à-dire c'est scandaleux pour certaines personnes de voir une dame journaliste en courte jupe en plein reportage, c'est vraiment scandaleux pour certaines personnes. Mais lorsque vous allez au Cameroun, j'étais dans une conférence avec des femmes journalistes, je les ai vues entrer de mettre des courtes jupes, des collants, elles exposaient leur corps et ça n'étonnait personne et j'ai compris que c'était leur culture. Donc, on a des cultures différentes. Vous allez à Luanda, c'est une autre culture. Vous allez à Brazzaville, c'est une autre culture. Donc, nous, on a notre culture qu'on doit préserver. Alors, pour revenir aussi en arrière, par rapport à l'accoutrement de nos filles, parce que les responsabilités, c'est vrai, sont partagées. Donc, moi, je me plains de ces comportements de jeunes femmes qui viennent d'abord embrasser la carrière journalistique avec l'intention première que je dois me faire des amis, je dois me faire des copains dans la politique. Donc ça, c'est déjà une idée à bannir. Mais lorsque vous embrassez cette carrière avec une vision, avec une passion, avec des ambitions, je pense que vous allez vous comporter autrement par rapport aux parachutistes dans ces métiers. Donc je veux juste demander aux responsables de rédaction d'imposer une discipline par rapport à l'accoutrement de jeunes femmes dans la rédaction. Parce que ça réduit aussi le risque de violence sexuelle, ça réduit le risque de harcèlement. Parce que sachez que les hommes aussi sont harcelés par les femmes. Si vous vous habillez mal et à chaque fois votre directeur est en train de vous voir le sein dehors, le cuisse dehors, c'est-à-dire il y a aussi une intention d'harcèlement auprès de la femme. Donc c'est pas seulement l'homme qui harcèle la femme, il y a aussi la femme qui donne un laissez-passer à l'homme de pouvoir poser ces actes-là. Donc moi j'ai toujours imposé cette imposition de discipline, même là où je travaille au niveau de l'agence congolaise de presse. Donc, je retrouve certaines filles qui ne comprennent pas pourquoi elles sont journalistes. Elles viennent avec des tenues alors qu'elles ont de l'alliance dans leurs doigts. Elles sont mariées, mais la façon de s'habiller, moi, je trouve pas ça correct pour le journaliste. Donc, il y a un grand travail à faire pour nous, les responsables des organisations des femmes journalistes. Donc, il faut des sensibilisations, il faut des formations, il faut échanger avec des responsables de rédaction. Parce que, n'oubliez pas que nous nous battons pour que cette femme obtienne des postes de responsabilité dans des rédactions. Mais lorsque cette femme, sur le plan extérieur, elle ne sait pas couvrir son corps, sur le plan caractère, elle n'a pas un caractère de femme responsable, de femme leader, dites-moi comment est-ce qu'on va la donner un poste de responsabilité. Donc il y a un travail que nous devons faire avec le responsable de rédaction, discipliner la femme, lui montrer comment elle doit s'habiller dans le milieu professionnel.
Bien, merci Madame Grasse pour votre intervention. Nous parlons du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Une grande conférence a eu lieu dernièrement, la semaine dernière ici à Kinshasa, autour de la question. Et il y a eu des recommandations qui ont été formulées. Par exemple, on dit sur le plan institutionnel que la RDC prenne certaines mesures pour protéger la jeune journaliste et celle qui mérite une montée en grade. Madame Charlie, comment protéger la jeune journaliste?
Bon, la jeune journaliste, pour la protéger, il faut d'abord, comme vient de dire Madame la Présidente, vous avez dit qu'elle est présidente de l'association
des femmes de la presse écrite.
Je crois que cela doit d'abord être fait au niveau de l'entreprise. Vous voyez? Donc, l'entreprise, bon, elle a parlé de l'ACP, mais chez nous, par exemple, à la grande RTNC, il faut que la direction de ressources humaines qui représente l'employeur puisse donner des instructions, des injonctions à toutes les directions, n'est-ce pas, pour que la femme puisse être protégée d'abord au sein de l'entreprise et que la femme puisse connaître ses droits, la manière de se comporter et autres. Et je crois que à partir de tout cela, il n'y aura pas à forcer. Ben, c'est pas d'une manière individuelle, parce que si vous quittez votre maison, vous allez dans un endroit comme vous êtes ici à Radio Capi, il y a des règles que vous devez absolument respecter. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs entreprises. Dès que vous êtes engagé, vous travaillez, vous remplissez vos temps d'antenne, à la radio, à la télé, donc tout s'arrête là. Mais c'est sur le plan du comportement et autres, ça laisse à désirer. Alors comment voulez-vous que l'on la protège? Je crois que c'est l'entreprise d'abord qui doit lui donner une ligne de conduite à suivre. Mmh. Et puis la fille va pouvoir se comporter d'une manière tout à fait conséquente. Donc c'est pas d'elle-même qu'elle doit se corriger du jour au lendemain, pas du tout. Elle s'habille mal parce qu'on la laisse entrer au sein de l'entreprise. Voilà. Mais voilà. Mmh. Donc moi je condamne même pas la fille, moi je condamnerais plutôt l'entreprise. Nous, quand on nous donnait des injonctions, là, au temps de Mobutu, on disait que non, pas de panne, pas d'entrée. Eh ben, à 20 ans, on en portait. Maintenant, quand vous portez des pannes, on dit que c'est une histoire de vieille.
Mmh. Vous êtes dépassé.
Vous êtes dépassé. Bon, on me dit que non, ça, c'est vraiment pas le moment.
C'est plus à la mode.
C'est pas à la mode. Il faut des collants, il faut des histoires à treillis, on voit le corps et tout. Ben, ça, vous voyez ce que c'est.
Oui. Mmh. Bien. Et dans, parmi les recommandations de la conférence, on dit qu'il faut mettre en place une brigade anti-harcèlement qui servira aux femmes et aux hommes victimes du harcèlement dans les domaines des médias afin de pouvoir adresser leurs plaintes de manière anonyme et de dénoncer leurs bourreaux. Est-ce possible d'arriver à mettre en place une telle brigade?
Mais moi, je sais que sur l'avenue des Huileries, vers quand Lufungu, là, il y a une police là qui s'occupe du sort de harcèlement sexuel et autres. Il y a une colonelle, une dame qui est là, que j'avais tenté à voir plusieurs maintes reprises. Mais il y a déjà une brigade qui s'occupe de ça. Peut-être que c'est pas connu. Hein, je crois aussi que c'est à la police de faire savoir à la population qu'il y a une brigade qui s'occupe de ça. Donc, elle est existante, peut-être méconnue de la majorité des personnes. Donc, elle existe. Mais de là à quitter chez soi pour aller se plaindre là-bas, je vous ai dit, oui. Dans nos traditions, c'est des choses que l'on doit renforcer. Donc, il faut vraiment éduquer la masse. Il faut des
beaucoup
formations.
Beaucoup de femmes préfèrent garder silence.
Moi, je vous dis, moi, je connais...
Les gens n'en parlent pas.
Elles n'en parlent pas. Moi, je connais, par exemple, une cousine à moi qui m'avait dit des choses effroyables. Elle se faisait harceler par son gynécologue. Elle est venue me dire à moi. Le gynécologue lui avait fait des choses. Elle me dit à moi, j'ai dit, dis à ton mari. Elle dit, je n'ose pas. Si j'ose, mon mari va aller taper le médecin et il ose de me chasser. Elle n'a jamais dit jusqu'à ces jours. Vous voyez de telles choses. Et son mari insistait pour qu'elle aille toujours chez ce médecin.
Le même
gynécologue. Et quand elle y allait, c'était la mort dans l'âme. Elle était obligée d'y aller. Vous voyez des choses pareilles. Donc, elle s'est tue jusqu'à ce jour. Hein, le harcèlement. C'est pas seulement dans le milieu médiatique. C'est partout. Vous voyez, donc, moi, je crois que il faut former. Et les hommes et les femmes, leur dire, voici vos limites. Et je crois que là, tout le monde va y trouver sa part.
Jonas de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre question par rapport au harcèlement?
Oui, merci, monsieur Jody, de la parole que vous m'accordez. À ce dernier temps, les hommes sont de plus en plus culpabilisés d'être, de violer les femmes ou de les harceler. Mais on oublie souvent la dimension dont nous parlons tout à l'heure. L'accoutrement aussi chez nos mamans. Donc, si peut-être on peut s'imaginer que la femme s'habille bien, bon, je ne vois pas qu'est-ce qui va d'abord pousser l'homme à harceler la dame et puis à violer. Ce que vous vivez à Kinshasa, c'est la même chose aussi ici à Kananga. Actuellement, la plupart des filles, surtout les étudiantes, mais il faut voir comment elles s'habillent dans les institutions. Ça laisse à désirer. Elles aiment bien des jupettes trop serrées sur leur corps. Qui, par moment, qui dessinent leur anatomie, elles se permettent d'aller comme ça s'asseoir dans l'auditoire et de préférence la première place. On se demande qu'est-ce qu'on cherche.
Alors, mais est-ce que c'est, tout cela, c'est des raisons valables pour les pour faire les harcèlements sexuels?
Bon, je vais dire non et oui à la fois. Non parce que l'homme, bon, il n'est pas dit que parce que l'homme a vu ça, hein, cette façon-là de s'habiller qu'il va aller. Oui, dans la mesure où tout homme normal, quand il voit ce que font les femmes là, bon, je pense que il a une petite idée de courir derrière la femme, ainsi de suite. Je suis en train de féliciter l'Université pédagogique de Kananga, UPKAN. Il y a une maman qui fait ce travail-là chaque jour. Elle est à la porte, elle est là à la première heure. Toutes les filles courvêtues, elles rentrent à la maison. Toutes les filles qui viennent avec des bras cassés, elles rentrent à la maison. Il faut vous habiller de manière universitaire. J'ai aimé ça. Si ça s'applique dans toutes les universités de notre pays, j'espère qu'on peut petit à petit changer la chose. Et je veux dire, pour terminer aux femmes qui s'habillent de la façon que nous décrions, c'est ce que j'ai toujours dit par moment aux élèves, aux étudiantes, c'est comme une maman qui a ses marchandises. Elle va vendre des arachides, elle vend des fruits. Alors, elle va prendre un échantillon, elle coupe, elle pour attirer la clientèle. Quand vous vous approchez, vous n'achetez pas l'échantillon. Parce que vous pouvez dire, j'achète l'échantillon, vous dites, non, c'est pourri. Et c'est déjà infecté, il y a des microbes. Vous préférez, les clients achètent ce qui est bien couvert, ce qui est propre. C'est pour dire aux filles qui pleurent aujourd'hui qu'elles ne sont pas mariées. C'est pour leur dire que quand vous vous exposez maintenant, vous exposez votre corps, vous exposez votre anatomie, vous faites la publicité des filles qui s'habillent correctement. Et quand, c'est-à-dire, vous dites à l'homme, moi, je suis, un jouet, je contiens tout ce que peut contenir toute autre femme.
Allez plutôt vers l'autre. Bien, merci, merci. Merci Jonas depuis Kananga. Melchior, vous êtes en ligne depuis la ville de Harou. Bonjour.
Merci beaucoup, monsieur Zoudi.
Quelle est votre question?
Pourquoi, monsieur, je vous dis pourquoi vous ne voulez pas nous connecter avec vraiment la télévision? Pourquoi vous manquez, hein? Effectivement, je voulais, s'il y a un temps, si la radio continue, peut nous accorder vraiment l'appel vidéo aussi, quoi. Alors, effectivement, la thématique d'aujourd'hui, à ce qui concerne cette émission, je voulais dire ceci, monsieur Zoudi. Alors,
oui, allez-y rapidement, vous n'avez pas beaucoup de temps. Quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui, effectivement, il y a un système qui est dans le territoire d'Aru. Il y a les jeunes filles, on peut dire que non, ils ont manqué le travail, ils se mettent là pour acheter les engrais, mais ils sont légitimes des engrais. Effectivement, comme les amis viennent de dire, ils sont en train de déranger vraiment les jeunes garçons et les vieux. Alors, je ne sais pas si ce système, jusqu'à là, les droits de l'homme ne s'occupent pas de nos jeunes filles, de quoi de,
oui, qu'est-ce que ces jeunes filles ont fait exactement?
Alors, pourquoi ils sont en train de nous déranger comme ça?
Et vous dérange comment?
Elle
vous dérange comment?
Avec l'air jupette, hein.
Alors,
vraiment, quand, même si vous êtes au voilà, même si vous êtes comme, ils sont en train de déranger les gens, c'est quoi ou juste, hein?
D'accord. Merci. Madame Grace, qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur? Il dit que les jeunes filles les dérangent avec leurs jupettes.
Ok. Au fait, moi, je pense qu'il peut devenir ambassadeur de bonne vie et mœurs. Donc, voilà. Il peut aussi enseigner à ces filles-là parce que nous avions connu des raisons pour laquelle nous parlons de la masculinité positive. Moi, je pense que lorsque vous avez des femmes qui sont en face de vous pour vous harceler, je pense que vous pouvez leur prêcher la bonne nouvelle, leur dire que non, vous voyez, la femme doit être comme ça dans la société. Donc, vous pouvez devenir automatiquement un militant de droits de femmes. Donc, vous pouvez aussi nous aider pour prêcher à ces enfants, à ces filles-là qui sont en train de vous harceler. Et sinon, vous pouvez, si cela continue, ça persiste, vous pouvez approcher les associations de défense des droits des femmes qui sont proches de vous. Donc c'est ça, moi je suis disponible, prenez mon contact, contactez la COFEP, nous allons faire ce travail à votre place pour conscientiser ces jeunes filles.
Madame Charlie, votre point de vue.
À propos de la jupette.
Oui, affaire jupette, monsieur dit qu'il est trop embêté.
Voilà, monsieur est trop embêté, il est trop regardant aussi. Ah, il faut le reconnaître parce que quand on est au volant, on ne regarde pas à gauche, à droite, on regarde devant soi.
Oui.
Question de sécurité. Je crois que ces filles-là, lui-même, il l'a bien souligné et elles manquent à faire. Hein, donc, se mettre là, se vendre, il n'a pas voulu dire que ce sont des prostituées, bref. Leur parler directement, comme dit Madame Grasse, hein. Comme dit Madame Grasse, c'est un peu difficile. Il nous arrive aussi de le faire à Kinshasa, mais là, on vous remet à votre place. Vous n'êtes ni ma mère, ni quelconque, donc,
vous
madame,
n'avez pas les droits de
vous n'avez pas ce droit-là, continuez droit votre chemin et laissez-nous en paix. Je crois qu'il y a une manière d'aborder ce genre de personnes par des associations, comme elle a si bien dit, par des conférences comme on l'a fait et dans les quartiers, parce que souvent, quand on pense conférence, c'est plutôt des choses grandioses. Mais faire le porte-à-porte aussi, ça aide. Dans les marchés, il y a des radios. Vous pouvez diffuser à longueur de journée des recommandations, la manière de se comporter. Comme à l'époque, on avait dans les chaînes de télévision, de radio, des stations de radio, des émissions éducatives, ça n'existe plus. À l'école aussi, il y avait des cours d'éducation de civique, hein, civisme, tout ça.
Oui.
Ça n'existe pratiquement plus. Là, le bon comportement que l'on apprenait à l'école.
Donc, il est important d'apprendre même aux jeunes filles à l'école.
Aux jeunes filles à l'école maternelle. Oui, maternelle, des petites choses, à l'école primaire surtout. Parce que l'éducation diffuse compte aussi. À la maison, c'est tout à fait normal, mais avec l'état des choses actuelles, les mamans sortent à 4h et rentrent à 22h, 21h. À quel moment elles vont éduquer leur fille? Donc, c'est à nous, peut-être, qui travaillons dans les médias, elle est là, des associations, c'est à nous de prendre cela en charge pour pouvoir aider, accompagner nos petites jeunes filles pour qu'elles deviennent responsables plus tard, parce qu'elle a décrié le cas du comportement des jeunes filles déjà, qui vont au métier avec des idées bien confuses dans leur tête. Donc, gagner, se faire connaître, et ça s'arrête là.
Elle vise les politiciens.
Les politiciens, les hommes responsables.
Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent.
Ils
payent cash.
Non, bon, il faut leur poser la question. Les temps sont durs pour tout le monde.
Bien sûr, on va accueillir Marcelin depuis l'UNA. Bonjour.
Bonjour, bonjour, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Marcelin?
En tout cas, mes excuses, je suis content de ce sujet que vous avez proposé. Et moi, en estimant les études sur les dames des médias, parce que je vous dirais que j'ai totalisé au moins 5 médias rivaux que j'ai déjà fréquentés. Alors, je vous dis, on pose d'abord la question à la dame sur place avec vous. Est-ce que là, au moins, déjà une précision sur les pourcentages des dames, les dames journalistes qui sont prises en mariage? Parce que, je vous dis, ici, chez nous, au village, c'est dès lors trouver seulement une dame journaliste. Je vous dis, là où nous sommes, nous avons qu'une seule dame. Et lorsqu'on voit la dame comme ça, on dit qu'elle se livre déjà à la prostitution. Il y a des choses qu'on est en train de la proposer. Voilà pourquoi. Et nous remercions ceux-là qui ont intervenu pour les problèmes d'habillement. Parce que ça, c'est un facteur aussi. Seulement, nous devons éduquer les dames des médias. Nous sommes en train d'observer, sinon, c'est ce qui décourage aussi d'une part. Mais nous, au village, nous parlons aussi des problèmes de ne pas avoir à un niveau concordant. Et ça, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ce sujet.
Bien, merci Marcelin depuis l'UNA. Je reviens aux recommandations de la conférence sur le harcèlement, la conférence contre le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Parmi les recommandations, on doit donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement, faire de la dénonciation un devoir pour les femmes des médias, faire des femmes des médias des porte-voix de la lutte, fournir les informations sur la marche à suivre pour se protéger sans compromettre son avenir, réduire le harcèlement dans la profession par la connaissance du sujet. Madame Grace Ngueke, votre réaction, votre réaction par rapport à ces recommandations?
Oui, en fait, les recommandations, c'est bon, mais je pense qu'il faut mettre en place un plan de suivi et évaluation. C'est ce qui fauche lorsqu'il y a des recommandations, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Il faut penser à un plan de suivi et évaluation. C'est comme ça que nous aurons des indicateurs et nous pourrons atteindre des objectifs, notre l'objectif de ces recommandations. Mais lorsque vous ne mettez pas en place un plan de suivi et d'évaluation, comment est-ce que nous allons atteindre l'objectif de ces recommandations? C'est ça le problème de notre pays. Lorsqu'il y a des recommandations, c'est bien, j'encourage, mais j'insiste sur la mise en place d'un plan de suivi et évaluation.
Madame Charlet, votre réaction?
Bon, moi je crois que quand on parle de recommandations, comme ça a été le cas, il faut d'abord que cela puisse arriver à bon port. On peut beau avoir des recommandations, comme c'est le cas, et puis c'est tout, dans un tiroir et dans les oubliettes en fait. Et l'année prochaine, on revient encore là-dessus. Avant même de parler du sondage auprès des personnes qui ont reçu ces recommandations, il faut d'abord penser à les faire parvenir au bon port. Là, j'insiste. Quand on avait terminé la conférence, il y a Madame Kabangushita qui avait remis au nom de toutes les consoeurs les recommandations, les fameuses recommandations à Madame la ministre de la Culture qui les avait reçues. Et maintenant, elle doit pouvoir faire parvenir ces recommandations-là d'une manière officielle auprès des organes de presse. Et jusqu'en ce moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, on est juste en train de parler, de survoler ce qui a été fait. Donc, pour penser à l'avenir de toutes ces recommandations, attendons voir, vous et moi, pour savoir que voilà, ces fameuses recommandations ont été déposées dans les organes de presse. On peut les diffuser dans les radios, dans les télévisions, mais les personnes concernées, qui doivent, à qui ça doit parvenir, ne sont même pas au courant. Comment penser à une évaluation? Moi, je m'arrête là. Que l'on ait d'abord, parce que moi, je travaille.
Oui.
Je travaille. Qu'on ait ces recommandations-là, qu'on voit ce que ça va donner. Et puis après, il y aura l'évaluation. Et l'évaluation, c'est à quel niveau? C'est dans le comportement. Vous voyez, de quelle manière maintenant les filles qui s'habillent mal auront compris ces recommandations-là si elles continuent à se présenter de la même manière? Et comment le commun de mortel, la petite jeune fille qui pense aller étudier dans les écoles de médias, communication et autres, pourra changer? Ça rime à rien.
Alors, parmi ces recommandations, on dit donner aux femmes des éléments de langage contre le harcèlement sexuel. Quels peuvent être ces éléments?
Bon, les éléments de langage aussi, à mon entendement, c'est peut-être de langage de la part de qui là, je ne comprends franchement.
Oui, de la femme, de la femme des médias qui peut être victime du harcèlement. Qu'est-ce qu'elle doit dire devant peut-être les sollicitations du directeur des informations, du rédacteur en chef, etc.
Non, il faut seulement avoir un comportement affable. Ce n'est pas parce que votre chef, nous tous on est passé par là, on s'était jamais battu avec nos chefs, comme la fille du Bénin. Quand quelqu'un vous aborde, vous dise des choses qui sont vraiment pas, qui n'ont rien à voir avec la profession, vous pouvez les éviter poliment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une certaine agressivité envers la personne, non.
Je vous dis que non, vous avez un très bon corps, un beau corps.
Non, vous lui dites que non, je suis pas venue ici pour ça, excusez-moi. Mais j'étais venue pour tel reportage, si vous pouvez me guider, tout ça, soyez poli, voilà. Correct, sympathique, et vous trouverez que la personne à la longue va se fatiguer. On a des collègues auparavant qui nous disaient des choses, mais après 30, 40 ans, on est devenus des frères et sœurs, on est en vie. On se côtoie tous les jours. Nous avons nos maris, ils ont leurs femmes. Ben, on continue la vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mauvais langage. Non. Voilà.
Et quand on dit faire de la dénonciation un devoir, vous allez dénoncer votre directeur des informations.
Voilà. Mais non. Il faut que la personne.
Les représailles.
Il faut que la personne soit conditionné, protégé. Personne ne voudra perdre son travail parce que les hommes, souvent, ils sont rancuniers. Ah, tu m'as fait ça. Vous pouvez vous imaginer un directeur qui reçoit une mise à pied de 15 jours à cause de vous. Et à son retour, mais ça sera un volcan.
Il va vous créer des...
Non, mais je vous dis, moi, je connais un directeur...
Des problèmes.
Je connais un directeur dont j'étais le nom,
oui.
qui s'était arrangé pour que la fille qui était dans ses services puisse aller travailler ailleurs. Donc, il l'avait débauchée. Hein, il avait le pouvoir de la débaucher, il l'a prise, il l'a mise ailleurs. Parce que lui, il était super directeur. Vous voyez? Donc, et la fille, elle avait souffert pendant plusieurs années, puis à la longue, elle avait quand même pu réintégrer son ancien service, mais en ayant perdu beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce qu'elle avait dénoncé ce fameux directeur-là. Donc, il faut d'abord sécuriser les femmes. C'est pour ça que je vous dis que cela doit venir de ressources humaines. Parce que c'est les ressources humaines qui travaille pour l'employeur, qui a un trait d'union entre l'employeur et les travailleurs.
Voilà. Madame Grace Ngike, comment faire des femmes des médias des porte-voix de la lutte contre le harcèlement sexuel?
Je pense qu'elles doivent être formées pour devenir des ambassadrices. Prenons d'abord les victimes elles-mêmes, les victimes de ces cas, parce qu'on peut mieux enseigner lorsqu'on a l'expérience, lorsqu'on est passé par là. Et donc, il faut d'abord prendre celles qui ont subi ces cas d'harcèlement dans les milieux professionnels, les former sur le plan psychologique, moral, et les former de sorte à devenir des sensibilisatrices auprès des autres journalistes qui embrasse notre métier. Et je pense qu'avec ces femmes-là, elles peuvent aussi, pas seulement enseigner dans le média, parce que le harcèlement, c'est une situation qui concerne toutes les filles du monde. Donc, on peut aussi faire des sensibilisations avec ces femmes des médias qui sont victimes du harcèlement dans les milieux scolaires, des sensibilisations dans les milieux scolaires auprès des jeunes filles. Je venais de sensibiliser une école vers de bonhommes. J'ai parlé avec des filles de la 5e et 6e année. Je leur ai posé la question, est-ce que vos parents parlent de violence sexuelle avec vous? C'est encore un sujet tabou. Je dois vous le dire, donc la femme des médias, elle accède aux médias, elle embrasse cette carrière sans pour autant avoir des notions élémentaires sur le violence sexuelle, sur le harcèlement sexuel. Alors, c'est pour certaines personnes, c'est un tabou. Alors, on doit briser... cette barrière-là, on doit briser cette barrière, ne pas faire de ça comme un tabou, mais parler de ça. On doit aussi avoir un programme de sensibilisation au niveau de la rédaction. Raison pour laquelle, moi, je plaide pour qu'au niveau de la rédaction, qu'il y ait quand même de conseillers, des directeurs généraux en matière du genre. Parce que je constatais que dans différentes rédactions, ces DG des entreprises de presse n'ont pas de conseillères en matière de genre. C'est très dur lorsque ce poste-là ne se retrouve pas au niveau de rédaction. Parce que ces postes viendront encore appuyer le travail de la femme. C'est ça le problème. Donc, il faut impliquer la femme dans cette situation pour devenir sensibilisatrice auprès de ses...
Madame Grace Kangundu, on n'a plus beaucoup de temps. On va suivre les informations tout à l'heure. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite, à COFEP. Merci d'avoir participé à notre émission. Nous disons également merci à Madame Charlie Lumandé, qui est journaliste à la RTNC 3. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci à vous aussi.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis.